Et ça, c'est ce qu'on a fait. Bonjour.
Oui, je vais peut-être en parler un tout petit peu. Ouais, bah, je commence tranquillement, oui. Même si Donc je présente un petit peu le truc de la... Pas l'année, pas si, l'année prochaine, à la rentrée prochaine, en sachant, pour réviser un petit peu, cette année, normalement, on avait commencé avec Chartres, vous vous souvenez, on a vu le Taquinum, on a vu la chapelle espagnole, on a vu les déploiements finis, les annonciations d'Angelico, Alberti, Saint-Augustin, son cabinet de travail, les lunettes de Michel-Ange à la chapelle Sixtine, puis on a vu... Alors, je n'avais pas fait le flyer, Sophonis Bonghisola, Palladio, Bruegel, Artemisia Gielkiewski, Titien, Martias. Et aujourd'hui, on va commencer l'heure d'avant une personne par Berlin. Et enfin, j'avais mis là, mais c'est pour faire joli, les fileuses de Velázquez. Peut-être qu'on pourra le commencer la semaine prochaine quand même, parce que je devrais réussir à faire le Berlin aujourd'hui à peu près. Et ensuite, je voulais continuer l'année suivante avec Borromini et l'architecture baroque, Vermeer la liseuse, deux artistes assez étranges, c'est François Denomé et Didier Barat, des peintres un peu étranges du XVIIe siècle, une peinture de Tiepolo au XVIIIe siècle, Watteau, Chardin, Goya et David. Donc voilà, alors en fait à chaque fois j'essaie de... C'est pas forcément les œuvres les plus marquantes, mais... Vous avez vu, autour d'une œuvre, je brode un petit peu, puis j'essaie de trouver des répondants. Avec souvent une question quand même qui revient, parce que je trouve que, à mon avis, c'est bon. Enfin, à mon avis, c'est important, c'est y compris la question de la représentation des femmes ou les femmes représentantes, et les enjeux qu'il y a derrière ça. Cette question cruciale. Et donc voilà, alors, en gros, normalement, l'année prochaine, ça devrait pouvoir continuer. Enfin, pour moi, il n'y a pas de problème. Une heure et quart, alors je vois si je peux pas faire une heure et demie, c'est pas impossible.
Si tu peux faire une heure et demie.
J'aurai un peu moins d'heures au lycée, donc je serai un peu moins pressé peut-être, donc un peu plus disponible. Le temps venant, je vais rejoindre la grande confrérie des retraités, pas encore tout de suite, mais donc j'aurai plus de temps. Voilà. Voilà la secte. La secte des retraités, donc voilà. Et puis comme ça, ça me fait un passage en douceur entre l'hyperactivité quand on est au boulot. Puis... Donc voilà.
L'activité intelligente qu'on peut.
Alors je pense que si ça vous convient, pour moi c'est aussi simple, même au niveau de l'administration, de dire bah, le lundi, voilà. Et bon, normalement ça pose pas de problème. Oui.
S'il vous plaît, juste avant de passer, à propos de Chartres, je pourrais me permettre de vous signaler quelque chose de l'école de Chartres. Je regardais un petit peu. Bon, l'école de Chartres, elle s'est en février, 2018, un journal du CNRS qui fait mention, un article pas mal, sur les archives de l'école de Chartres, qui sont très détériorées, comme vous le savez, par un bombardement américain en 1944. Une erreur, je crois que c'était une caserne. Oh, ouais. Bon. Donc oui, il y a la moitié des manuscrits brûlés, puis après, ensuite, les pompiers arrivent, ils continuent à éteindre l'incendie, mais et le miracle, entre guillemets, scientifique, c'est qu'ils ont réussi, avec une équipe du CNRS, dernièrement, à restaurer un certain nombre de manuscrits avec des méthodes d'imagerie, d'interférométrie, voilà. Donc, ça c'est une première chose. Deuxième chose, pour ceux qui s'intéressent, numérisation des documents et accès par Internet à la bibliothèque virtuelle de l'école de Chartres. Vous pouvez de chez vous voir ce...
Ah ben ça, c'est sûr qu'on peut occuper son temps sans problème. Vous avez dit aussi, il y a ceux qui s'intéressent, il y a la base Joconde, qui est numérisation notamment des carnets de dessin pour les artistes. Je vous ai dit, rien que de la Croix, il y avait 800 pages. Donc c'est énorme. Hein. Et il y a des artistes comme ça qui ont une activité de graphiste très différente de leur activité de peintre. Et c'est assez marrant d'aller fouiller alors. Et puis alors il y a aussi pas mal de choses maintenant qui améliorent la définition. Hein. Maintenant je trouve Wikimedia. Ou alors le projet Google Art, qui est assez hallucinant, parce que là maintenant, là, j'en trouve de temps en temps sur des définitions, comme je vous ai montré, qui sont exceptionnelles de certaines œuvres. D'ailleurs, je crois que depuis l'autre jour, je crois que j'ai trouvé, je ne sais pas si je vous l'ai montré, un Prométhée de Ribera. Voilà, celui-ci. Est-ce que je vous l'ai montré le Lixion ? Je ne sais pas si je vous l'ai montré ça. Et là, vous avez des définitions. Et là encore, c'est le pixel qui est en train d'arriver, parce que c'est pas encore chargé. Mais c'est des définitions. Voilà.
Oh là là, super.
Définition, et on peut le zoomer encore.
C'est impressionnant.
Et ça, c'est Google Art Project. Alors, je ne fais pas la pub pour GAFA, mais enfin... Et ça vient des techniques de satellite, rappelez-vous. Je vous avais dit ça pour Bosch. Hein, c'est que, comme il... Une photo ne peut avoir suffisamment de définition. L'idée de coller plusieurs photos tout en les associant, ça vient des techniques satellites qui permettent effectivement de lisser deux prises de vue différentes. Et donc c'est comme ça qu'on réussit à avoir des définitions de plus en plus précises d'œuvres d'art. Alors, ça demande des dispositifs assez incroyables hein, pour prendre les... C'est pas une photo, c'est plein de photos qui sont prises. Alors par contre, l'autre jour... On était à Titien Martias, on avait vu donc Prométhée, etc. Alors, j'étais arrivé aux nymphes et aux satyres, et j'avais oublié de préciser, puis il y a une chose qui est assez ambiguë justement dans l'idée des nymphes et des satyres, c'est le double jeu du satyre, qui est tantôt victime, par exemple avec Martias, c'est le représentant, on va dire, du mythe populaire et d'une esthétique populaire. Par contre, quand il s'agit de la scène de Jupiter et Antiope, là vous avez l'expression assez ambiguë justement, où c'est le divin hein, qui tout d'un coup se déguise en satyre pour se rapprocher du corps féminin ou d'une femme, etc. Donc vous avez quand même cette idée que cette fois-ci le satyre n'est pas victime, il est utilisé comme un leurre. Alors cette figure du satyre, d'une manière générale, elle est ambiguë. Rappelez-vous un petit peu, vous avez montré celle-ci ou pas ? Oui ? Oui, oui. Parce que soit il est représenté comme, en gros, un violeur en puissance, soit ça peut être aussi représenté comme une allégorie. Ici, c'est une peinture de Bartholomew Spranger, qui est un peintre baroque comment il s'appelle ? Hongrois ou tchèque, assez connu dans ces régions, mais... qui commence à être un peu reconnu, où là c'est très étrange, parce qu'au contraire, vous avez une complicité évidente entre Antiope ici et le satyre, hein, puisque là c'est un jeu amoureux avec la sexualité. Alors, d'une manière générale, la sexualité, on voit bien, elle n'est jamais décrite en tant que telle, mais elle est abordée par... elle est contournée, elle est abordée de façon très contournée, parfois pour dénoncer les abus, au contraire, parfois pour légitimer une certaine... sexualité assumée par le masculin comme par le féminin, hein, par les deux, comme par exemple chez Spranger. Alors, ça, c'est quelque chose qui est assez typique de ce siècle du XVIIe, de doute, hein, de doute et d'ambiguïté sur lesquels on questionne tout, en fait. On questionne les questions idéologiques, enfin, les esthétiques, qu'est-ce qui est beau, hein, est-ce que c'est la vision apollinienne ou dionysiaque, qu'est-ce qui est au centre de l'univers, la Terre ou le Soleil, on verra ça plus tard avec Velázquez. On questionne aussi la religion, puisqu'elle est remise en cause en tant que dogme catholique par le protestantisme, donc vous avez vraiment une sorte d'ouverture. Et le doute, on verra juste au XVIIe siècle, le doute philosophique avec notamment Descartes, Pascal, etc. Donc vous avez vraiment le XVIIe siècle, fin XVIe, début XVIIe, c'est vraiment aussi une ouverture où beaucoup de choses sont interrogées. Et ce qui fait que vous avez des postures, hein, je crois que vous avez montré toutes ces attitudes très variées du satyre, hein, ou de la Vénus endormie, ou de l'ancienne reine Amazone qui est ici trompée et qui la refuse, hein, et là au contraire qui est encore complice. Donc vous avez beaucoup d'éléments très variables. Hein, et il y a aussi quelque chose qui est notable, et on verra ça justement dans le petit cours que je vais commencer juste après, c'est la figure aussi des dieux. Les dieux qui, quelque part, abusent, hein, abusent d'un certain pouvoir sur les humains. Alors, par exemple, Apollon et Marsyas, c'est quand même Apollon qui utilise d'un pouvoir divin de façon violente. Quand vous avez Jupiter qui se déguise en satyre ou en quoi que ce soit, c'est aussi un abus de pouvoir sur une femme ou sur des humains. Une bonne partie des scènes que l'on a vues, que ce soit Prométhée ou que ce soit Sisyphe, ou toutes ces figures-là, montrent aussi l'idée d'une humanité qui est un peu victime du pouvoir des dieux. Et on verra, et d'ailleurs c'est ce que plus tard j'en reparlerai quand on verra Watteau. Watteau, ça c'est une peinture en fait de Watteau au XVIIIe siècle, et on verra que pour Watteau c'est une façon de dénoncer aussi le pouvoir royal, l'abus de pouvoir royal du roi soleil, du roi divin, etc. Donc il y a, derrière ces peintures-là, il y a des enjeux de pouvoir, des dieux sur les hommes, des hommes sur les femmes, hein, et cette espèce de tension qui est interrogée. Alors, je ne suis pas en train de dire que là, ce n'est pas des peintures révolutionnaires ou quoi que ce soit, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui joue. Et vous voyez, là, au contraire, une peinture de toute complicité. Parce que il y a aussi quelle est la légitimité du rapport amoureux ou sexué. Puisque dans la tradition chrétienne et catholique, c'est quelque chose qui était évacué, qui était considéré comme péché. Et là, vous avez quand même aussi une interrogation via les peintures mythologiques sur la légitimité ou pas du désir masculin, du désir féminin. Est-ce que c'est une complicité? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est une faute? Etc. Vous avez donc presque toujours cette figure-là. Ah, la différence quand même notable, c'est que le désir masculin est exprimé de façon bestiale ou sous les attributs, en tout cas, d'une bête. Là où c'est assez... Enfin, ça, je le rappelle aussi un petit peu, quand même, c'est que n'oubliez pas que la figure du diable, dans la tradition chrétienne, c'est la figure du bouc. Donc c'est la figure du satyre. C'est-à-dire que vous avez aussi...
Pourquoi est toujours en présence d'un enfant?
Ah, ça, c'est parce que c'est... alors, ça dépend quand c'est Vénus, il s'agit effectivement de... d'Eros ou de Cupidon, etc. Donc, c'est lui, en général, symbole d'un véritable amour, on va dire, mais qui, tout d'un coup, est un peu doublé par un amour bestial. Un amour, on va dire, plus physique, hein, plus libidineux. Mais cette libido étant plus ou moins assurée. Alors là, c'est un peu compliqué, parce qu'il s'agit généralement de Mars, mais vous avez quand même, il a les attributs du diable. Du diable, du diable. Comme on le voit ici. Et ça, c'était Pan et Syrinx. Ça, je vous ai montré ça, par contre, je ne sais plus. Non, ah bon. Parce que cette idée aussi du satyre qui poursuit et de la possession ou de l'animalité, c'est quelque chose... si, je crois que j'ai abordé justement l'idée du souffle, non?
Oui.
Oui, du souffle et de Pan, qui est aussi un satyre, qui poursuit cette jeune femme qui est transformée en roseau, et il va la posséder en coupant les roseaux et en soufflant, donc c'est une façon de pénétrer le corps par le souffle. C'est pour ça que le souffle est aussi attribué à l'animalité et à une certaine sexualité. Donc c'est quelque chose qui est récurrent, hein, en cette pleine période du fin 16e, début 17e. Et voilà encore une autre peinture de Pan et Syrinx. Syrinx, c'est la jeune femme transformée progressivement en roseau. Normalement, c'est pour être protégée, pour échapper. Et là, la voilà au contraire qui va être en fait un peu trompée, puisqu'elle va être possédée par... Et ça, c'est une peinture de Jordaens. Voilà. Par contre, excusez-moi, je vous ai présenté ça ou pas?
Non.
Alors voilà, c'est que chez les Flamands, qui sont moins marqués par la dimension religieuse, justement, on va retrouver cette idée du souffle et cette idée du corps paysan ou du corps animal, au lieu d'être interrogé avec doute, hein, de façon un petit peu gênée, on va dire, par les Italiens, comme si tout à coup... ils se posaient la question de savoir où est vraiment le beau, où est la décence. Est-ce qu'on peut exprimer le corps, hein? Eh bien, vous avez, avec quelqu'un comme Jordaens notamment, et les Flamands catholiques, parce que vous aurez les Flamands protestants qui seront un peu plus austères, et les Flamands catholiques comme Jordaens et Rubens vont au contraire assumer complètement un corps plein, un corps paysan, l'abondance des biens, la nourriture, la prolifération au sens strict, prolifération des biens, mais prolifération, c'est-à-dire proles ferere, c'est-à-dire porter des enfants. Hein, prolétaire, c'est celui qui porte des enfants. C'est-à-dire qu'aussi, donc, la maternité, l'abondance, le corps qui se remplit et qui se vide, qui se remplit de nourriture et qui se remplit d'air, et qui se vide d'air, et qui se remplit de liquide, et qui se vide de liquide, et qui se remplit aussi de tout, de toutes les humeurs. Et ça, c'est typique chez Jordaens, où donc la figure du satyre paysan, populaire, etc., est vue comme quelque chose de positif. Mais chez les Flamands, la nature, elle n'est valable qu'à condition que l'on travaille et que l'on produise de façon un peu systématique et volontaire. Puisque sinon, la nature, elle donne rien en Flandre. C'est plat, il ne fait pas très beau, s'il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Alors que si vous voulez, vous êtes en Grèce, vous êtes en Italie, il y aura toujours un olivier qui va pousser, il y aura toujours des biquettes, il y aura toujours des poissons, il y aura toujours des choses comme ça, il y aura du blé. Donc si vous voulez, vous avez un truc tout bête, c'est le rapport aussi au travail et à la nature n'est pas du tout le même. Ce qui fait que l'activité humaine est beaucoup plus valorisée dans la tradition flamande. Autre chose qui va être assez claire, c'est que la Flandre n'a pas du tout non plus de structure hiérarchique qu'on avait vu avec les époux Arnolfini, en termes de, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de prince, il y a des princes, mais il n'y a pas cette hiérarchie sociale. Il n'y a pas non plus une aristocratie dominante, c'est un pays bourgeois, pré-capitaliste, dans lequel la richesse vient aussi du travail, des biens accumulés, de l'accumulation de biens. Ça ne vient pas de la naissance. Donc si vous voulez, l'accumulation de biens, c'est positif. C'est un signe de puissance, de valeur. Ce qui fait qu'il y a une tolérance beaucoup plus grande. Hein, et puis aussi, au niveau religieux, ce n'est plus un pays uniquement catholique. Vous aurez tolérance pour les juifs qui feront chasser d'Espagne, vont arriver en Flandre. Vous aurez des protestants, vous aurez des catholiques. Et même, on verra au XVIIe siècle, comme par exemple Jordaens, il commencera à y avoir même des penseurs agnostique ou athée. Spinoza, un juif converti et puis presque athée, quelqu'un comme Descartes qui met de côté quasiment la question religieuse, seront tous à Amsterdam, seront tous en Hollande, et vous aurez une idée progressive d'une distance par rapport à la religion. Toujours est-il, ce n'est pas une théocratie non plus, et ce qui fait qu'il n'y a pas cette figure dominante du divin, du roi, du prince, d'une nature qui serait au-dessus de ça. Donc la valeur humaine et la chair et le corps valent quelque chose. C'est pour ça, d'ailleurs, carnaval, et on va trouver très souvent chez Jordaens, l'idée du carnaval. Et le souffle, la possession, la trivialité populaire, on va la voir chez Jordaens, mais totalement assumée, dans ses grandes peintures de fêtes de paysans. Et vous allez voir qu'on va y retrouver encore les satyres, où là, justement, tout est gonflé. Tout est gonflé, les enfants, les hommes, les femmes, les âges, le beau. Il n'y a pas de beauté aérienne ni apollinienne, au contraire, une certaine truculence qui va arriver par, et notamment l'idée de se remplir d'air, on le verra, se remplir d'eau, se remplir de tout, et ça c'est typique de Jordaens. Donc les hommages comme ça, est-ce que c'est net? Les hommages comme ça aux filles de Cérès, justement, alors ça fera la transition avec la scène suivante, on les trouve très souvent, et là vous retrouvez justement les satyres avec leur flûte, et vous avez l'expression d'un jeu amoureux, ici d'une sorte de plaisanterie, tout déborde, les seins sortent des tuniques, les ventres débordent, le souffle que l'on voit ici dans les flûtes, les pipeaux, etc., que l'on voit à peu près partout, le souffle c'est la vie. Le souffle c'est la vie, d'ailleurs au sens strict, anima, animus, anima c'est le souffle, c'est l'âme et l'animation, et le mouvement, donc le souffle c'est l'échange. Et donc, quelque part, ils assument complètement ce côté satyre, hein, ce côté animal, y compris, qui n'est pas du tout, et il n'y a pas de distance au sens strict chez Jordaens. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de ciel. On est toujours dans des premiers plans, on est dans des chairs, et qui valent quelque chose. Hein. Et donc, une inversion des valeurs apollinienne, aérienne, géométrique, divine, aristocratique. Là, au contraire, on se vautre dans les corps, de façon très claire. Jordaens va faire une multitude de scènes qui s'appelle Le roi boit. Alors c'est le roi de carnaval, justement. On se moque un petit peu, c'est une inversion du roi. Le roi boit, les gens, alors ici, vous avez la sexualité, la main sur le sein, mais ce n'est pas du tout un abus, c'est un jeu. Vous avez celui-ci, le souffle, qui souffle soit dans une pipe, soit dans des cornemuses. Les enfants ici, qui boivent, et même, etc. Vous avez celui qui s'endort. Et ça peut paraître un peu trivial, vous avez les gens qui gueulent, donc qui font du bruit, c'est encore, on va remplir l'espace. Alors, quelque part, c'est... Alors, on parle aussi d'une peinture baroque lyrique ou d'une peinture baroque qui, ayant peur du vide, le remplit. Parce qu'il y a quand même le doute. Il y a peut-être le doute sur tout ce qui est lointain, sur l'espace que devient-il, la religion que devient-elle, on ne sait pas, etc. Et pour combler une inquiétude sur un monde qui s'ouvre de plus en plus, géographiquement, politiquement, religieusement, eh bien, on se rassure aussi en remplissant donc une sorte de boulimie. Hein, on s'accroche au vivant et au premier plan. Donc, le corps, la sexualité, la nourriture, les sensations immédiates sont des choses qui sont valorisées. Donc, on n'est plus dans la recherche d'une esthétique de la distance, c'est très clair. Alors, les Jordans, il y en a plein. Hein. Juste une chose aussi, le souffle et l'air, le fait de se remplir, c'est quelque chose, y compris, c'est le roi de carnaval, c'est le roi des fèves. Ça peut paraître trivial, mais la fève et la galette, c'est quelque chose qui gonfle, et les fèves, c'est aussi quelque chose qui gonfle le ventre. Vous voyez que c'est un aliment venteux, donc on est aussi dans le souffle du haut en bas. Et ça peut paraître trivial, mais c'est... Vous avez des peintures de Jordan, vous avez quelqu'un qui vomit, vous avez un enfant qui pisse, vous avez des choses, vraiment, on est dans du grossier. Hein, on est dans du grossier parce que la chair vaut carnaval, et donc le roi de carnaval, c'est un hommage à aussi toutes ces valeurs de richesse très terrestre. Et alors, que ce soit le thème du carnaval, ou le thème de Cérès et des moissons, ou le thème de Perséphone, ou toutes ces choses-là, c'est récurrent. Et toujours dans... Alors là, il n'y a quasiment plus de paysage. Hein, quasiment plus de paysage. Alors ça, c'est une chose que l'on retrouve un petit peu différemment en Espagne, hein, chez Ribera, où vous avez encore ici Silène ou Bacchus, hein, qui est ici représenté comme gros et ventripotent. Et voilà encore... peinture de Jordaens. Alors, Jordaens et le satyre, justement, et le souffle, c'est aussi une scène que l'on retrouve plusieurs fois chez Jordaens, et qui est assez emblématique, justement, aussi du questionnement et du souffle et de la vie, un peu paradoxal, parce que c'est tiré d'une légende qui dit qu'un satyre, un jour, voit un paysan qui a froid, il est dehors, il a froid, c'est l'hiver, et il souffle sur ses mains, pour se réchauffer. Et puis, quelques temps après, il observe un paysan qui, chez lui, mange sa soupe, et sa soupe est trop chaude, et il souffle sur sa soupe pour la refroidir. Et donc, le satyre se dit, mais comment ça se fait? Le souffle, il est à la fois il fait du chaud, et à la fois il fait du froid. Donc, il vient questionner le paysan pour avoir un peu le secret du mystère de ce souffle-là, qui peut le froid, qui peut le chaud, et qui, en fait, vient du corps, et en même temps, cette espèce de magie, comme ça, du souffle. Donc, vous voyez que la question du souffle, elle est aussi, elle va très loin, jusque dans les légendes. Et là, et bien, effectivement, le paysan, c'est celui qui a un peu le secret. Là, vous avez le monde paysan que l'on trouve assez clairement dans cette histoire-là. Donc, la figure du satyre, ça va au-delà de la simple flûte de Pan, de la simple animalité. C'est vraiment aussi une interrogation sur des valeurs qui sont en général, n'ont pas le droit de citer, sont exclues de l'art. Hein, rappelez-vous que le monde des travailleurs, des paysans est souvent en fond. Hein, mais par exemple, de la peinture italienne et française, on voit très peu. C'est mis à distance, etc. Alors, paradoxalement, mais ça on le verra peut-être avec Velázquez, bon ça je passe, paradoxalement avec Velázquez et des gens comme Murillo, le monde paysan, c'est terrible, il sera valorisé en Espagne ou au Portugal, parce que si c'est un monde paysan, c'est pas des juifs. Comme les juifs n'ont pas le droit d'être paysans, représenter des paysans, c'est une façon de prouver que on valorise la terre, comme les juifs n'ont pas le droit de posséder de terre. Ils n'ont pas le droit de posséder des terres ni d'élever les animaux, etc. Eh bien, c'est une façon de valoriser une sorte d'Espagne purement catholique et terrienne, etc. Donc, vous avez des enjeux parfois qui sont assez complexes. C'est comme, vous savez, c'est une blague, mais en fait, c'est un peu vrai. Il y a des plats anti-juifs, anti-convertis au Portugal. Vous faites du porc avec des fruits de mer. Ben, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour faire fuir un juif traditionnel qui ne voit pas manger de porc. Il pourrait à la limite le manger, mais si en plus vous avez des coquillages, là ça ne va pas du tout. Donc c'est la tradition dit aussi que c'était des
comme le Front National qui
voilà, des repas porc. Ouais. Bien sûr. Non mais c'est vrai. C'était ça. Et donc voilà. Alors ça c'était une petite à côté autour des nymphes et des satyres. Et puis, je voulais quand même vous montrer aussi que cette idée d'écorcher, il y a l'idée du satyre, il y a tout ça, mais, chose bizarre, les mêmes artistes vont faire aussi une figure chrétienne d'un écorché vif. C'est Saint Bartholomé, Saint Barthélemy. Et c'est assez marrant là. Pourquoi ? Parce qu'on peut se dire, en fait, qu'est-ce qui intéresse l'artiste ? Est-ce que c'est l'histoire de Marcias ? Est-ce que c'est l'histoire de Bartholomé ? Ou c'est l'idée de montrer un corps martyr ? De montrer un corps qui souffre ? Parce qu'en fait, entre Marcias écorché ou Saint Barthélemy écorché, il n'y a rien à voir. Si vous voulez, au niveau de l'histoire, il n'y a aucun point commun. Donc pourquoi est-ce que le même artiste va traiter aussi bien Prométhée que Ixion, que Titio, que Marcias, que Barthélemy ? C'est sans doute vraisemblablement que ce qui intéresse l'artiste, ce n'est pas tellement l'histoire, c'est le prétexte pour présenter des corps martyrisés, abîmés, derrière lesquels on va voir ces espèces d'empathie ou de compassion pour une souffrance humaine et avec un certain, parfois, un souci de détail. Et là, vous voyez, Saint-Barthélemy, alors je ne sais plus s'il est arrivé, la légende dit qu'il a été écorché vif, effectivement, et on va retrouver, là encore, des peintures qui sont assez proches des peintures précédentes de Titien ou de machin, Ribera, etc., comme on le voit ici. Et là encore, vous avez Saint-Barthélemy, écorché vif, toujours dans une pénombre. Alors j'ai trouvé des documents de mauvaise qualité, celui-ci encore, vous voyez, avec des scènes et des figures très proches de celles de Apollon et Marcias, et dans des postures. Et des postures qui inspirent la pitié, alors, qui sont l'occasion aussi de faire des anatomies. Alors là c'est encore le projet Google, hein. Ça c'est la qualité de la reproduction, alors, parce qu'effectivement tout est en surface, tout est au premier plan dans ces cas-là. Qualité de peau. Donc la beauté n'est pas dans, ni dans l'attitude, ni dans le corps représenté, ni dans la scène. Donc on peut dire qu'ils prennent le contre-pied des valeurs classiques de la Renaissance, qui étaient autour de la tradition gréco-romaine, de la géométrie, de l'anatomie, des proportions, d'un idéal de beauté, de l'écart justement, par rapport à la nature. Là on plonge à chaque fois le plus bas possible. De la manière, alors le satyre, il y a ce côté animal, mais là, dans la souffrance, on est aussi dans le corps ne maîtrise plus rien. L'être ne maîtrise plus rien, parce que la souffrance, justement, elle domine l'esprit. Donc à chaque fois, vous avez quand même cette idée d'un rappel, hein, d'un rappel peut-être du corps et de la chair, qui peut être totalement soumis, parfois, à des sensations et des perceptions purement physiques, de souffrance ou d'animalité. Tout à coup, comme si on ne dominait plus. Or, rappelez-vous que la Renaissance, c'est surtout platonicien. C'est plutôt le contraire. C'est l'esprit doit en permanence dominer le cœur, l'âme, le ventre, le sexe, etc. Et là, vous avez une inversion totale systématique. C'est que vaut le corps, que vaut la chair. Sexualité, souffrance, animalité, nourriture, etc. Donc, on a une interrogation obsessionnelle autour du corps, quels que soient les thèmes. Et là, alors, ça peut être Saint-Sébastien soigné par Saint-Irène, c'est toujours de Ribera, le peintre espagnol. Et là encore, Saint-Sébastien soigné par Saint-Irène. Et là encore, Bartholomé écorché vif, etc. Donc, voilà pour les horreurs des satyres, etc. Mais vous voyez qu'il y a, il y a des cohérences assez étonnantes. D'abord, souvent, c'est les mêmes artistes qui sont obsédés par des sujets. On voit qu'au-delà de l'histoire, en fait, c'est d'autres choses qui sont en jeu. Et de façon positive, inquiétante, au contraire totalement assumée, les Espagnols sont dans une sorte de doute terrible sur cette interrogation du corps. Qu'est-ce qu'il vaut ? On est dans une sorte d'angoisse avec le noir, etc., pénible, etc. Tandis que la tradition Jordaens et Rubens va être au contraire assumée complètement cette espèce de trivialité ou cette plénitude. Ça, c'est assez clair. Alors, je continue d'un peu la même thématique en changeant de chapitre avec cette sculpture extraordinaire qui est l'enlèvement de Perséphone par le Bernin. Alors le Bernin, c'est ce sculpteur, alors attendez, vous la connaissez sans doute, cette sculpture. Alors il est vraiment fin 16e, début 17e, pour faire simple, il est exactement la même génération que Descartes, que Nicolas Poussin, que Rembrandt, Rubens, que Delatour. En gros, c'est des gens qui sont nés vers 1590 et qui meurent vers 1660 à peu près. Hein? Donc c'est vraiment plein de XVIIe siècle. Et le Bernin, vous connaissez, c'est lui qui a fait la colonna de Saint-Pierre à Rome, qui a travaillé aussi à la basilique Saint-Pierre, qui a travaillé y compris Paris, etc. C'est vraiment le prince de la sculpture et de l'architecture au XVIIe siècle, donc italien. Alors, il y a une série de sculptures que vous avez peut-être vues, il y en a au moins quatre, mais là je vais en retenir trois, qui sont à la Galerie Borghese à Rome. Et vous avez celle dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était l'enlèvement de Perséphone par Pluton, hein, que l'on voit ici en détail. Je reviendrai un petit peu après. Que l'on voit encore là, ici, là.
Et il est pas déguisé en satyre pour...
Alors, là, non. Mais il y a une idée quand même des tréfonds. Il y a quand même une idée de la terre, il y a une idée de la prolifération, il y a une idée de la nature. On va le voir ici. Et alors, ici, c'est peut-être une des choses qui est... Alors, voilà, je zoome ici parce que c'est assez hallucinant d'un point de vue de la sculpture. Et c'est l'envoi, c'est très connu pour ça, c'est cette main qui s'enfonce dans la chair. Ici, on voit la chair de Perséphone et la main de Pluton qui est en train de l'enlever. Et là, c'est, d'un point de vue de sculpture, c'est incroyable de vie. Alors, en italien, ils disent morbidezza. Morbidezza, c'est positif, c'est pas la morbidité. C'est la morbidezza, c'est la qualité de la chair, en fait. De quelque chose de morbide, c'est-à-dire au contraire, quelque chose qui a une valeur de charnel. Hein. Donc, de carnation et en même temps de toucher. La morbidesse. Alors ça se trouve... Et ici, on va arriver quand même sur la question du sujet, parce que le sujet est quand même pas rien, n'est pas rien, et même central. Puisque c'est, rappelez-vous, c'était un des tout débuts des premières séries sur les grands repères, j'avais déjà parlé des figures féminines toute-puissantes. Or, parmi les figures féminines toute-puissantes, vous aviez donc celle de Chataluyuk, hein, qui a donné celle de Cybèle, par exemple, ensuite, qui est une figure féminine de Pachamama ou de déesse mère ou de Gaïa, qui domine à la fois les bêtes féroces et les bêtes que l'on peut apprivoiser, les taureaux, les bovins, etc., qui a donné des figures comme celle de Isis ou de Hathor, donc des figures féminines toutes puissantes. Et Perséphone, à l'origine, c'est vraiment ça. Ou c'est aussi l'autre figure de Perséphone, c'était parfois Artémis d'Éphèse. Hein. Là aussi, qui domine les animaux sauvages, qui est aussi la déesse des animaux domestiqués, les bovins, qui est aussi, avec une multitude de saints, qui est aussi déesse des moissons, donc qui est à la fois déesse de l'élevage, de l'agriculture, du soleil et de la lune, et qui domine aussi les bêtes féroces. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout une pauvre petite fillette qui se fait enlever. Et là, elle est transformée, en une jeune femme qui est alors la fille à Cérès, sa maman, et puis Cérès voit sa fille enlevée par Pluton, qui est l'oncle de Perséphone, Proserpine, parce que c'est Proserpine ou Perséphone, et qui ensuite l'enlève. Alors Cérès fait la grève des moissons tant que sa fille est aux enfers, et donc il y a une négociation, je simplifie l'histoire, qui dit qu'en fait Perséphone, ben, elle aura le droit de sortie. Deux trimestres par an, donc 6 mois par an, elle a le droit de sortir et de revenir sur Terre. Et là, sa mère accepte de faire refleurir les plantes et de faire refructifier les arbres, etc. Donc, c'est une négociation avec le pouvoir masculin et sombre et chtonien souterrain de Pluton et des eaux et des enfers, et, etc. Oui, Pluton, c'est comme les enfers, donc on a quand même cette idée... terrestre, etc. D'ailleurs, il y a Cerbère, hein, le monstre ici, mais Perséphone est juste un rôle passif. Donc, d'un rôle totalement actif de figure féminine très puissante, elle devient vraiment là une jeune fille qui est uniquement enlevée pour sa beauté ou pour un viol quasiment, ou pour une prise de possession, une prise de pouvoir sexuel, et là, en gros, qui est l'enjeu de sa mère, etc. Mais vous avez quand même cette idée d'une puissance qu'il faudrait posséder. Alors cette idée de la possession et la destruction des cultes féminins, ça dure depuis la Bible et les Grecs, hein, c'est vraiment cette idée de les détruire en permanence, et souvent de les, encore au XVIIe siècle, vous avez cette idée encore de les réduire avec cette idée-là. Alors, il y a des ambiguïtés, c'est ça qui est intéressant avec Berlin, c'est que Perséphone n'est pas passive ici. Elle se débat, elle n'est pas contente, elle hurle et elle a l'impression qu'elle est en train d'envoyer des baffes, etc. à Pluton, etc. Et vous avez donc ici une figure ici d'une grande énergie, hein, et même d'une souffrance. Et là, il y a quelque chose aussi qui était beaucoup plus intéressant dans cette sculpture que le simple rap mythologique de « bah tiens, ma petite, maintenant, les femmes, vous êtes sous la houe, sous la coupe des dieux mâles et masculins, etc. Donc il y a des enjeux ici qui sont beaucoup plus complexes et qui montrent qu'on est aussi dans une période aussi d'interrogation et de doute. J'ai appris très récemment, d'ailleurs, je ne connaissais pas du tout cette femme-là, que ce regard sur Perséphone, il a été aussi mené au XVIe siècle par une femme française écrivaine qui était du côté de Poitiers, qui s'appelle Christine Desroches. Christine Desroches, dont la mère aussi était écrivaine, et qui a écrit plusieurs textes, dont un, justement, où elle relie l'histoire de Proserpine, qui était dans les Métamorphoses d'Ovide, et elle essaye d'avoir un regard en se disant, mais finalement, elle prend le point de vue de Perséphone et de sa mère Cérès. En disant, mais finalement, et elle partage la souffrance de Perséphone et de sa mère. Et elle essaie de réécrire quelque chose pour avoir un autre point de vue sur ce. Donc vous voyez qu'on est aussi dans des enjeux intéressants. Et par contre, c'est un truc tout bête. J'ai tapé sur Wikipédia parce que je connais. Pourtant, Desroches, je ne connaissais pas Christine Desroches. Et il y a très peu de pages sur elle. Et même, alors, il faut trouver dans la Bibliothèque nationale de France, ou sans doute des textes, mais quasiment jamais réédité, alors qu'elle a eu un rôle important de relecture, justement, sur des mythes qui, en fait, peuvent être, selon l'éclairage qu'on apporte, peuvent être vus de façon très différente. Alors, vous avez donc, dans la sculpture de Bernin, quelque chose qui est vraiment dans la dramatisation. On n'est pas du tout dans l'anecdote. On n'est pas. Et je vous montrerai d'autres images d'enlèvement, où, au contraire, on voit qu'il y a une sorte d'hommage et de dépréciation des figures féminines qui sont simplement des sortes d'objets comme ça enlevés. Alors, les thèmes d'enlèvement de femmes, il y en a énormément. Et en regardant ça, je me suis dit, mais il y a une obsession réelle. C'est-à-dire qu'il y a une obsession réelle, par exemple, au Louvre, je ne savais pas, ou à Versailles, une bonne partie des sculptures qui sont au Louvre, c'est des enlèvements de femmes, des râpes de femmes. Et à chaque fois, c'est toujours un peu saisi. Et chose que l'on verra aussi plus tard, alors je vous avais montré avec Jupiter se transformant s'attire pour aller abuser Antiope. Il ne faut quand même pas oublier que Diane ou Antiope, ce n'est pas non plus n'importe qui comme femme théoriquement dans la tradition mythologique. Antiope, c'est une reine amazone et Diane, c'est Artemis d'Éphèse, c'est-à-dire que c'est une déesse toute puissante. Et vous avez toujours cette idée de réduire des pouvoirs et des puissances féminines. À chaque fois, il y a un enjeu, il faut remettre sur le tapis. Alors, certains le font avec une connivence coupable et d'autres interrogent de façon plus subtile. Je pense, comme exemple, Bernin, y compris la figure ici de Perséphone, qui est remarquablement exprimée et photographiée ici.